Il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est-à-dire que c'est une région qui est sévèrement surveillée par Pékin. Dans le sillage, je dirais, de l'anniversaire qui approche, d'ailleurs les mesures de sécurité ont été renforcées considérablement donc à Urumqi. Urumqi est d'ailleurs une ville qui est, je dirais, à 70-80%, c'est une ville rane déjà. Donc là, il n'y a aucun problème pour le contrôle. Et pour ce qui est des quartiers ouïghours, de toute façon, ils sont contrôlés par la police. Et apparemment, il y a même des patrouilles de citoyens maintenant donc, qui se chargent de surveiller, en tout cas en journée et également de nuit, pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de possibilité de manifester, je dirais, par rapport à l'anniversaire donc, de ce qui s'est passé l'année dernière. En fait.
Et est-ce que depuis l'année dernière, la Chine a pris des mesures pour que les peuples, Han, Ouïghours, les locaux, les migrants arrivent à vivre ensemble?
Les choses, je dirais, qui ont un petit peu avancé, d'abord, c'est qu'il y a eu des discussions au sein du pouvoir chinois pour essayer d'analyser ce qui s'était passé à Urumqi. Alors, il y a une mesure positive qui a été adoptée, qui est la taxation des sociétés donc, qui travaillent dans le secteur de l'énergie. Donc, il y aura 5%, je pense, de leurs profits qui resteront dans la province du Xinjiang. Alors, bon, évidemment, tout ça est positif. À part que, probablement, les gens qui vont gérer un petit peu cet argent supplémentaire seront des rannes. Alors, quant à savoir si les Ouïghours vont véritablement pouvoir en profiter, je pense que c'est une question qui reste tout à fait ouverte aujourd'hui.
Et au-delà des mesures économiques, est-ce qu'il y a des mesures éducatives, par exemple, pour faire accepter, voire imposer dans les écoles la mixité?
De toute façon, donc, tout un travail entre guillemets de propagande qui est fait sur l'unité des nationalités, le vivre ensemble, etc. Le problème, c'est que les gens qui sont sur place se rendent très bien compte de la réalité où effectivement il y a une série de problèmes, où il y a des disparités économiques, où il y a un afflux de population flottante Han qui finalement prend les emplois des Ouïghours, où il y a de la discrimination à l'embauche, où les Ouïghours ont plus de mal, par exemple, à avoir des emprunts bancaires que les Han. Donc, bon, bah, tous ces problèmes ne sont pas réglés. Au point de vue dialogue religieux, bah, vous savez, c'est quelque chose qui dérange un petit peu le pouvoir en place. Donc, tout ce qui est activité musulmane, en tout cas de la part des Ouïghours, reste tout à fait contrôlé par le pouvoir en place. On reste toujours dans la même logique de contrôle, de surveillance. D'ailleurs, il y a quelques jours, on a encore, soi-disant, démantelé une cellule terroriste, etc. Bon, je veux dire, personne n'est dupe. On approche de l'anniversaire des événements de l'année dernière, donc ça donne un excellent prétexte pour de nouveau resserrer la sécurité, etc.
Et justement, par rapport à ces arrestations, est-ce qu'il y a ou non une menace séparatiste armée des Ouïghours ?
On peut trouver des parcours individuels de certains Ouïghours, peut-être vaguement, qui se sont engagés à côté de mouvements djihadistes. Bon, il y en a une vingtaine qui avaient été arrêtés en Afghanistan, transférés à Guantanamo, et puis finalement, on s'est rendu compte que ces gens n'avaient absolument pas des profils de terroristes. Il faut bien se rendre compte que finalement, au Xinjiang, la résistance, je dirais, des Ouïghours, elle se fait au niveau infrapolitique. On résiste à une politique aux accents assimilationnistes, eh bien, en maintenant sa langue, ses traditions, sa culture. Pour la classe moyenne ouïghour, par exemple, elle consomme de manière à se rapprocher le plus possible, je dirais, des modes de consommation de ses voisins d'Asie centrale ou du monde musulman plutôt que des modes de consommation chinois, en fait. Hein. Les produits, par exemple, turcs, halal, ont beaucoup de succès au Xinjiang. C'est une façon, finalement, de maintenir sa différence. Et puis, il y a aussi tout le travail qui est réalisé par la diaspora ouïghour, donc à partir de l'étranger, où ils essayent d'avoir des contacts avec les décideurs, tant aux États-Unis qu'en Europe, d'avoir des contacts aussi avec les organisations donc, qui s'occupent de la protection des droits de l'homme, ne fût-ce que pour informer sur la situation réelle sur place, en fait.